Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Louis.
Et rapport aux mots? Oh, non, je suis plutôt une visuelle. C'est pas que j'en emploie comme tout le monde. Mais enfin, non, ça m'intéresse pas autant que la vision, que de regarder, que de découvrir quelque chose que je vois avec mes yeux.
Cette année, nous avons l'immense joie chez Louis Média d'être partenaire des Rencontres d'Arles, festival de photographie qui accroche durant l'été, dans toute la ville, des œuvres qui disent les émois et les interrogations de l'époque. À cette occasion, j'interroge dans Fracas trois photographes pour leur demander ce que la photo peut dire mieux que les mots. À commencer ici par Sabine Weiss, à laquelle les Rencontres consacrent une rétrospective. Sabine Weiss a 97 ans et derrière elle, une œuvre photographique qui raconte le siècle passé. Contemporaine de Robert Doisneau et Willy Ronis, assimilée à ce courant de photos humanistes, on trouve sur ses clichés le Paris des années 50, les gamins de rue, des clochards et des chevaux qui se cabrent. Mais elle a aussi fait de la photo de mode, de célébrité, saisi les visages de Giacometti ou de Miro, parcouru le monde de l'Égypte aux États-Unis. Dans la maison qu'elle occupe, depuis près de 70 ans, dans le 16e arrondissement de Paris, une vie d'art et de photographie s'étale par piles de livres et par accrochages muraux. C'est dans cette maison que j'ai rencontré Sabine Weiss, juste avant qu'elle ne s'envole pour les rencontres. Je lui ai demandé de me raconter comment tout a commencé, à Genève, en Suisse, son pays de naissance, et comment elle avait été exposée très tôt aux arts visuels. Je suis Charlotte Pudlowski, bienvenue dans Fracas.
C'est-à-dire que ma mère me montrait des jolies choses. Elle m'emmenait dans les musées, elle m'emmenait dans les expositions. Il fallait, oui. À l'époque, je voyais évidemment des œuvres de Conrad Litz, de gens. Enfin, j'allais beaucoup en Alsace. Chaque année, j'allais en Alsace chez ma grand-mère. Donc, on faisait les vallées, les petits musées et les très bons restaurants. On n'avait pas de voiture. On prenait un car et on allait dans un village. Et là, on descendait. On allait à pied monter dans la colline, dans la montagne. Et redescendre dans une autre vallée. Pour reprendre un autre car dans l'autre vallée, c'était très sympathique. Et j'ai très bon souvenir de ce qu'on mangeait. C'était très, très bon.
Comment vous avez commencé à vous intéresser à la photographie?
Écoutez, le premier appareil que j'ai acheté, c'était toute petite. Je crois que c'était il y avait une grande chose à Paris, je sais plus ce que c'était. Un grand salon, c'est plus qu'un salon. C'était sur les quais de la Seine avec une grande foire, quoi. Et je m'étais acheté un petit appareil avec mes sous. Un petit appareil avec des petits films. Et j'ai fait des photos et ça m'a plu. Je me souviens que le premier film que j'ai fait avec ce petit appareil que j'avais acheté dans un espèce de Monoprix. Et ce premier film, je l'ai collé dans un album où j'ai marqué « C'est mon premier film ». Et il est daté, c'est assez amusant, parce que comme si je m'imaginais que j'allais rester dans cette profession. Et donc, mon premier film. Il y avait une photo de moi, quelqu'un avait dû me photographier, une photographie de ma sœur, une photo de ma mère et une photo de ma tortue.
De votre tortue ?
Tortue. Enfin, elle n'était pas à moi, mais enfin, comme le jardin était à nous, la tortue nous appartenait un petit peu. Elle était très grosse, elle devait avoir en tout cas 50 ans, et très très grosse. Elle s'appelait Jabotte.
Ah. Donc vous l'aviez domestiquée ?
Plus ou moins.
Et alors, du coup, comment vous avez décidé de devenir photographe et d'aller passer votre certificat?
Mais parce que je n'aimais pas beaucoup les études en classe. Puis ça m'a plu. Je faisais de la photo pour moi, pourquoi pas tout d'un coup en faire ma vie. C'était pour moi, c'était pour les autres aussi. C'était les témoignages de ce que je voyais dans la rue. Puis petit à petit, des gens, j'ai voyagé un petit peu, parce qu'avant, on ne pouvait pas voyager, il y avait la guerre. On ne pouvait pas sortir de Suisse. Moi, j'étais là-bas, il fallait que j'y reste. Alors, quand ils ont ouvert les frontières, ben, je suis venu à Paris déjà, et je savais que c'était définitif. Enfin.
Et alors, comment vous vous retrouvez apprenti chez Paul Boissonnat?
Alors, quand j'ai décidé d'être photographe, puisque j'aimais bien faire de la photo, et que j'en faisais déjà assez soigneusement, enfin, je connaissais déjà assez bien, j'ai écrit à mon père, parce qu'à l'époque on s'écrivait, mais il n'y avait pas de téléphone, c'était un luxe le téléphone. Alors j'écrivais à mon père, je voudrais être photographe. Et il m'a répondu, viens à Genève, il y a des ateliers, on va voir ce qu'on trouve. Et voilà, je suis entré chez Boissonnat, qui était une vieille dynastie de photographes de Genève, dont les aïeux étaient meilleurs que les descendants. Mais j'ai bien appris à faire des tas de choses précises, photographier des montres, des petites choses, surtout les tableaux de Balthus. J'aimais beaucoup les tableaux de Balthus et on en avait de temps en temps à photographier. Et curieusement, comme vous me parlez de tableaux, on photographiait évidemment des tableaux de grande renommée, enfin des antiquités merveilleuses. Et on me disait, est-ce que vous pouvez aller à la coratrie ou aller à tel endroit chercher le tableau? Et j'allais chercher un tableau de grand maître. On ne s'effrayait pas de transbahuter ça en pleine ville, en pleine foule. Il n'y avait pas foule, mais enfin, c'est un curieux souvenir.
Et qu'est-ce que vous avez appris techniquement là-bas?
Oh ben, chez Boissonnat, beaucoup. Vous savez, la technique, on l'apprend toute sa vie. De toute façon, c'est parce que ce qui est important, la photographie, c'est ce qu'on photographie. Or, moi, ce que je photographiais, c'était des jeux, surtout pour moi, pour mon plaisir, des gens de la rue.
C'est tout de suite ce qui vous a intéressé en premier, les gens?
Oui, je faisais des choses très techniques pour répondre à des commandes. Mais c'est les gens. Puis c'est intéressant de les photographier, de les voir. Puis le rapport qu'on a avec eux, avec des gens qu'on photographie, à qui on parle, où on a compris que s'ils vous répondent pas, ils veulent pas être vus. Il y a de tout.
Et comment vous avez décidé de venir à Paris après le certificat?
Comment j'ai décidé? Mes relations amoureuses étaient difficiles. J'ai pensé que c'était mieux de quitter le pays.
Vous étiez amoureuse d'un Suisse et vous vouliez fuir cet amour?
Je n'étais pas Suisse du tout et j'ai fui un amour. Oui.
Ah ben je veux savoir ce qui s'est passé.
Ce qui s'est passé, c'est que pourquoi mes amours s'en sont plutôt solutionnés avec une fuite qu'avec un mariage, peut-être, je sais pas. Non, je vous dirai pas.
Quoi qu'il en soit, vous arrivez à Paris et en 1950, vous avez rencontré le grand amour de votre vie, Hugh Weiss.
Je vais tout de suite. Ça se fait pas comme ça, les choses. Je l'ai rencontré. Je suis arrivé à Paris en 46. La fin de la guerre, c'était 46.
45.
Je suis arrivé à Paris en 46. Et j'ai rencontré mon mari en 49. Mais je l'ai vu. J'avais une fête qui était chez moi, en partie chez moi et en partie dans un atelier. J'habitais à la Grande Chaumière et j'avais un grand atelier. Donc, mon voisin qui avait un tout petit atelier m'a dit, est-ce qu'on peut déborder chez vous pour la fête de mon frère jumeau? Et on a fait ça. Puis quand j'ai vu mon mari, il est arrivé en position de Bouddha. Et sur les bras de copains qui lui faisaient la chaise, ce qu'on appelait la chaise à porteur dans le temps, qui n'existe plus, je crois. Je l'ai vu, je l'ai embrassé, et c'était pour la vie.
Et vous avez tout de suite su que c'était le grand amour?
Ah oui, oui, oui. Mais tous ses copains aussi ont dit mais tu vas te marier avec elle. Tu sais, lui, il ne savait pas, mais il était encore très naïf. C'est bon, je voyais cet homme, je tout de suite très très éprise. Je le trouvais vieux, mais enfin, il était plus jeune que moi. Et il était peintre. Quelle horreur! Si j'aime pas sa peinture, qu'est-ce que je fais? Oh là là. Alors, chaque fois, quand j'allais chez lui, je lui disais, tu tournes les tableaux. Il tournait tous les tableaux pour pas que je les voie. Même si c'est un problème, vous rigolez, mais c'est vraiment un problème. On aime quelqu'un, peut-être que c'est un type qui fait des très mauvaises peintures.
Et alors, quand est-ce que vous avez découvert ces tableaux?
Un jour.
Et alors, vous vous êtes dit quoi?
Ça allait. Ça passait bien.
Peu de temps après avoir rencontré votre mari, en 1952, vous faites une autre rencontre très importante, c'est celle de Doisneau.
Oui, oui. Enfin, moi, j'étais photographe et j'avais une photo qui avait été reproduite dans Vogue, le journal de mode Vogue. Je ne sais plus ce que c'était comme photo. C'était peut-être un artiste, je ne me rappelle plus. Le directeur m'avait demandé de venir montrer des photos. Je suis venue avec des photos de Morveux et de Clochard. Et il a beaucoup aimé. Et il y avait un monsieur à côté de lui qui était Robert Doisneau, mais qui regardait aussi et qui disait « c'est bien », qui appréciait. Et alors, Doisneau m'a tout de suite fait entrer dans une agence avec laquelle il travaillait, qui était l'agence Raffo.
Qu'est-ce que ça a changé dans votre travail d'être dans une agence?
Ah ben, une sécurité d'assez de commandes. Parce que quand je n'étais pas parisienne déjà, je connaissais rien, enfin très peu Paris. Et comme il fallait que je me fasse que je travaille pour des journaux, il fallait que je les connaisse. Bon. Donc ça m'a beaucoup apporté. Et puis l'amitié de Raffo et d'autres photographes de cette agence.
Vous parliez beaucoup les uns avec les autres de votre travail, de vos techniques, de vos choix de sujets?
Oui, assez bien avec Doisneau, parce qu'on était... Doisneau, il avait... l'agence Raffo était une petite agence, dans un petit appartement, avec la petite sœur qui faisait de la couture, le grand-père qui faisait je ne sais plus quoi. Et c'était assez... sympathique d'atmosphère. Et quand on y allait dans l'après-midi, on buvait le thé. Et les employés de l'agence Raffo apportaient des truffes au chocolat, des tas de choses à manger. Donc il y avait une atmosphère calme, amusante. Voilà.
Et très tôt, dans ces années-là, vous allez être exposé au MoMA. Quand vous parlez du MoMA, vous dites souvent un petit truc à New York ou un autre petit truc, l'Art Institute of Chicago.
J'avais des très, très bonnes expositions et je ne me rendais pas du tout compte. J'allais aux États-Unis parce que mon mari était américain, on y allait régulièrement, mais je ne connaissais pas du tout. Je me disais, Art Institute of Chicago, un institut pour l'art. Ça me paraissait bizarre comme titre. Enfin, mais enfin, j'ai été très bien représentée aux États-Unis.
Et est-ce que vous faisiez le même genre de photos quand vous étiez aux États-Unis ou quand vous étiez en France?
Ah, je fais la même chose. De toute façon, si on me laisse, si c'est pas une commande pour photographier un truc de décoration ou de bricolage ou ou une reproduction de tableau. Je photographiais beaucoup de choses qui me touchaient, des gens de la rue.
Qu'est-ce que ça a changé de photographier à l'étranger pour vous ?
Rien du tout, je trouvais. J'arrivais à trouver des villes, j'arrivais à trouver des rues qui ressemblaient à des rues parisiennes.
C'était la même lumière, c'était les mêmes visages, c'était les mêmes gens ?
C'était un peu la même classe sociale. J'aimais beaucoup là, les gens de la rue. Puis ça leur faisait du bien quelquefois. Ça dépend comment on les prend. Mais il y en a qui ont eu un gentil moment avec moi.
Pourquoi ça leur faisait du bien ?
Ben quand on est très pauvre, je pense que personne vous fait très attention à vous. Et là, moi, je les prenais en considération. Je faisais attention, parce qu'on peut très bien blesser quelqu'un en le photographiant, mais ça, j'étais gentil, simplement j'étais gentil. Je ne savais pas, peut-être que maintenant je suis plus très gentil. Bon.
Comment vous approchiez les gens ? Vous disiez quoi quand vous arriviez, que vous vouliez prendre une photo ? Ou est-ce que vous disiez rien ? C'était juste dans votre manière de regarder ?
Et la plupart du temps, je disais rien parce que c'était souvent à l'étranger et que je parlais pas toutes les langues que je photographie, de gens que je photographie. Je crois que je leur souriais simplement. Je leur montrais que j'étais là et contente de les voir. Mais évidemment, il fallait aller doucement. Mais souvent, c'était très, très rapide, les photos. On voit, on sent, c'est très, très facile.
Qu'est-ce qui vous plaît quand vous voyez une scène que vous avez envie de prendre en photo ?
Ce qui me plaît dans la scène, c'est peut-être la douceur des gens. Il y a des gens très, très doux, très gentils. C'est pas, ils sont tous différents les uns des autres, avec une grande pauvreté apparente, surtout à l'époque. Maintenant, les choses ont quand même beaucoup changé. Vous ne voyez pas des gens aussi misérables que ce qu'on voyait.
Vous dites que vous êtes très sensible, que vous aimez les abandonnés du monde. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de photographier ces sujets-là ?
Ben déjà, ils sont plus naturels. Ils ne jouent pas la comédie. S'ils sont vraiment des grands paumés, des grands pauvres, des grands tristes, des grands malheureux, ils ne jouent pas. Ils sont comme ça. Donc c'est du vrai. Et on le voit, on le sent.
D'ailleurs, Marie Desplechin, qui a préfacé un de vos livres, dit de vos photos qu'elles ne sont pas charmantes, au sens où elles ne sont pas là pour faire jolie, pour être mignonnes, qui sont des choses qu'on peut retrouver parfois dans la photographie humaniste, des sourires qui sont proches parfois de la comédie. Chez vous, il n'y a jamais ça, il y a quelque chose de plus âpre peut-être, non ?
Je ne sais pas. Vous savez, ce serait tout à discuter, photo par photo.
Alors, je vous propose qu'on fasse ça. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on ouvre un de vos livres et qu'on regarde un petit peu et que vous me racontiez ce que vous voyez ?
Si vous voulez.
Je prends celui-ci, il est juste au-dessus d'un livre d'œuvre de votre mari, Hugues Weiss. Oui. Alors.
Ah ben ça, c'est un livre fait par le jeu de paume. Il y a peut-être 2 ans, je ne sais pas quand il date. Pas de date. Bon. Alors, ah oui, ce livre. Ah ben tenez, je tombe sur la photo. Le premier film fait le 10 juillet 1935 au jardin. Au jardin.
Ah oui, avec la tortue.
Où est-ce qu'elle est, la tortue ? Ah ben, elle n'est pas là.
Ah ben non.
Non, elle n'est pas là, la tortue. Je croyais qu'elle était là. Ça, c'est le premier reportage que j'ai fait sur nos hôtes américains à Genève. C'était sympathique. On entrait en conversation avec tous. Et c'était bien. Bon, écoutez, je ne vais pas vous tourner toutes les pages.
Non, mais en revanche, je veux bien...
Voilà la maison, par exemple, où vous êtes maintenant.
Oui, parce que dans cette maison, vous habitez depuis une cinquantaine d'années.
Je suis venue en 49.
Oui, donc c'était... 70 ans plutôt.
Oui. Et ça, c'est où nous sommes, là. Là, on est là.
Sur la photo, on voit, on voit une cour avec une cour. Échelle. Ça a l'air très différent d'aujourd'hui.
Ça, c'est une photo chère.
Et ça, c'est vous au travail ? C'est un autoportrait ou c'est une photo
c'est
qui a été prise ?
C'est moi, oui, c'est vu du premier étage de l'atelier, enfin.
Vous fumez ?
Ah, je fumais beaucoup. Ça, c'est énormément.
Alors, je voudrais qu'on aille regarder. Je me permets. Je vais voir un peu ce qu'on va voir à Arles, là.
Et alors... Ça, j'aime bien, par exemple, oui. Parce que ça montre l'audace de ce garçon qui...
Alors, on voit une jeune femme allongée dans l'herbe.
Oui.
Et un jeune homme allongé oui. sur elle ou,
presque.
Ou arc-bouté au-dessus
et
d'elle.
Mais surtout, il regarde les copains pour... Ça s'appelle l'audace. Pour qu'il ait été audacieux de bouleverser cette jeune fille.
C'est une photo qui s'appelle « Terrain vague, porte de Saint-Cloud ». Elle a été prise en 1950.
Oui.
Alors, il y a cette photo, par exemple, « Enfant jouant » en Espagne, en 1954. Est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous voyez sur cette photo ?
Ben, je suis un toréador, je suis un... Je ne sais pas ce qu'il est. Enfin, il était très content de lui, ce petit garçon.
C'est un petit garçon qui joue à tirer ses copains, non ?
Il a le mort aux dents. Il a un truc dans la bouche. Et puis,
comme s'il était un cheval.
Il s'élance. Et les autres enfants l'admirent.
Vous avez pris beaucoup de photos d'enfants ?
Oui. Mais il y en a toujours dans les villes. Il y en a qui errent dans les quartiers.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de photographier des enfants ?
D'abord, ici, il y a tout. La pauvreté de leurs habits, qu'ils aient complètement déchirés, et l'imagination de ce garçon qui joue et qui est un cheval, qui a le mort aux dents. J'aime beaucoup cette photo.
Et c'est une de vos photos qui est très connue parce qu'elle...
Elle exprime beaucoup à la fois. Elle exprime le combien il s'amuse, combien la fierté d'être admiré par ses copains, tout à la fois.
Vous dites souvent que vous n'êtes pas une artiste, que vous êtes une artisane et que vos photos sont un témoignage. Quand on voit toutes ces photos, et notamment toutes vos œuvres des années 50-60, ça témoigne aussi d'un monde qui a beaucoup changé, voire qui n'existe plus.
Oui, mais ça me plaît, parce qu'évidemment, j'ai fait tant d'autres choses. Par exemple, je suis sûr que dans le début de ce... Je crois quelque part, il y a dans ce livre, il y a des photos de... Attendez, je le prends sur moi. Ah ben ça, c'est aux États-Unis. C'était quand même une belle exposition. Il y en avait quand même pas mal de photos.
C'est en 53, non ?
Je sais pas, ouais.
Ça, c'est une photo de Jeanne Moreau que j'adore, qui a été faite pour Vogue en 1954. On la voit dans la rue, elle regarde au loin. Elle est très chic. Elle porte des gants, une ceinture, une longue robe noire.
C'était une femme bien.
Vous avez aimé aussi photographier des stars, parce que vous en avez photographié beaucoup, des célébrités.
Non, je n'ai pas aimé spécialement. Mais enfin, j'en ai beaucoup photographié dans tous les domaines.
C'était votre gagne-pain pour vous acheter la liberté de faire le reste ?
Oui, et puis j'avais des clients qui me faisaient des commandes. Ça, c'est une commande, enfin, je veux dire. C'est sur un reportage que je faisais sur les gens qui habitaient le long de la Seine, mais en dehors de Paris, juste à la sortie de Paris à Neuilly.
C'est une photo sur laquelle on voit un chat traverser une grille ou un portail.
Parce que le personnage s'appelle Félix. Félix Lamis. Félix Lamis, qui était un peintre. Et voilà. Ça, c'est New York.
Ce à quoi vous êtes attentive aussi dans toutes vos photos, c'est la composition. D'abord, la composition.
Oui, évidemment. Évidemment qu'on compose tout le temps, oui. J'avais un bon œil. Ça, c'est de la mode pour match. Ça, c'était pour Vogue. Ça... Non, mais ça, moi, ça a toujours bien marché, la photographie. Ça, c'est un reportage que j'ai fait sur le Portugal, quand le Portugal est rentré dans l'OTAN. L'OTAN m'a demandé beaucoup de travail. Je crois que ça c'est Portugal, toujours. Ça, non, mais...
Et alors, si vous dites que votre œuvre photographique, c'est une œuvre aussi de témoignage, elle témoigne de quoi?
L'attitude simple des gens, en tout cas. Et aussi de comment ils s'habillaient, comment ils se comportaient. Ça, c'est une photographie de mon mari et moi, devant une vitrine du printemps, fermée pour grippe. Bon. C'est plus un souvenir de ce que les gens faisaient, parce que ce type-là, il avait chassé des petits animaux à la campagne, et il s'était mis sur le trottoir, avenue de Versailles, pour les vendre. C'était très inattendu.
Est-ce que vous avez le sentiment que vous arrivez à exprimer par la photo des choses que vous ne pouvez pas exprimer par les mots?
Oh oui, certainement. C'est assez direct, assez facile. Si la photo est bien composée, qu'elle dit vraiment ce qu'elle veut dire.
D'ailleurs, aujourd'hui, vous prenez plus de photos.
Non, je prends plus de photos. Parce que je suis un peu fâché avec ces appareils où on peut enlever des personnages, en rajouter.
Mais vous auriez pu continuer de travailler avec des vieux appareils?
Oui, je l'ai fait un petit peu, mais... Oh, ben non, après, c'est fini, ça, c'est...
Maintenant, ce que vous n'aimez pas aussi, c'est que les gens ont un rapport très différent à la photographie.
C'est un drôle de rapport, oui. Parce que finalement, tous ces gens qui ont des petits appareils de téléphone, enfin, dans leur poche, comme ça, c'était pas tant. Ils font des photos avec. Mais qu'est-ce que ça donnera? Est-ce qu'ils les garderont? Est-ce qu'ils perdront l'appareil avec la carte mémoire? Est-ce que je ne sais pas?
Et les gens se laissent aussi moins facilement photographier dans la rue?
Ah oui, ça moi. Ils sont conscients qu'on voit ce qui va et ce qui ne va pas en les photographiant. Ils vont essayer de se retrouver.
Comment ça?
Se retrouver en photo, semble quelquefois pas. Non, mais ça, dans le temps, on n'avait jamais un refus. De toute classe sociale, des gens vous voyaient qu'on prenait des photos, mais ils disaient non, mais ils ne disaient pas non. Et c'était comme ça. Tandis que maintenant, ils sont soupçonneux, ils croient qu'on va gagner notre vie avec, qu'on va être bien payé, ils croient qu'ils ont quelque chose de spécial qui cloche, qu'ils vont montrer à tout le monde. Non, c'est moi, c'est plus du tout facile.
Je vous ai entendu.
Moi-même, j'ai été arrêté pour faire des photos parce que les gens tout de suite donnaient l'alerte, attention, elle fait des photos, qu'est-ce qu'elle va écrire avec, comment ce sera dit.
Vous avez été arrêté, comment ça?
J'étais enfin arrêté, j'ai pas été au poste de police, mais quand même, je me rappelle une fois spécialement, j'étais au un petit square qui est à côté d'un hôpital. J'allais voir mon mari à l'hôpital Pompidou, et juste le petit square qui est à côté, qui est très joli, et j'avais déjà fait beaucoup de photos d'enfants qui étaient foncés dans les jets d'eau. Ils étaient en costume de bain et et ils fonçaient dans... C'était très, très sympathique. Et alors, un jour, j'y vais, puis je sais pas si je voulais vraiment faire des photos, mais j'avais mon appareil dans mon sac. Tout d'un coup, je m'assieds, au bout d'un moment, je sors l'appareil. Et là, alors, les gardes du parc me sont tombés dessus. Alors, vraiment, j'ai été assaillie, comme si vraiment j'allais faire quelque chose de vraiment monstrueux. Ils m'ont pris toutes mes identités, ils ont copié, ils ont fait... Ah oui, pendant ça a duré un grand moment où... Oui, j'ai dû me défendre. Je ne me défendais pas beaucoup parce que, comme je n'étais absolument fautif de rien, je n'avais pas. Non, maintenant, c'est moi. Les gens sont soupçonneux. Ils croient qu'ils ont quelque chose de très bizarre pour qu'on les photographie. C'est vrai que c'est.
Et est-ce qu'il y a le travail de certains photographes contemporains qui vous parlent ?
Écoutez, il y a de tout, et je regarde très peu les photographes. Je suis tellement préoccupée par ma propre production que je ne regarde pas beaucoup les autres.
Même maintenant que vous ne produisez plus ?
Oui, mais maintenant, enfin, évidemment, je regarde un peu parce que je reçois beaucoup de catalogues, de confrères, de sociétés, de gens. Ça, j'en ai beaucoup. Voilà.
Ça vous manque pas ?
Non. Non, ça me manque. De toute façon, je suis devenue vieille, alors je suis contente de rien foutre. Ça ne manque pas aux archives multiples que... Nous côtoyons.
La rétrospective inédite des Rencontres d'Arles consacrée à Sabine Weiss se tient jusqu'au 26 septembre 2021. On y retrouvera des images, films et documents personnels de la photographe. Louis Média est partenaire des Rencontres et invite à cette occasion plusieurs des artistes présents à Arles dans ses podcasts Émotion, Travail en cours et Fracas que nous vous invitons à découvrir. Je suis Charlotte Pudlewski et cet épisode de Fracas a été réalisé et mixé par Tristan Mazir. La musique a été composée par Valentin Fayot. N'hésitez pas à soutenir Louis Média et nos projets en vous abonnant au Club Louis, louismedia.com/club. À très vite.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Bonjour, je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple, comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants. Fête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.